Espace 2. Babel, Gabrielle de Sarzon.
Bonjour et bienvenue. Il y a quelques semaines, en novembre dernier, l'anthropologue des religions Malek Chebel nous quittait. À travers de nombreux ouvrages, il défendait un islam des Lumières, un islam compatible avec les valeurs des droits de l'homme. Dans Babel ce matin, nous nous interrogeons sur le devenir de ce projet d'un islam d'ouverture. Est-ce qu'il faut parler d'un échec ? Catherine Erard, bonjour.
Bonjour.
D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'islam des Lumières ?
Oui, alors cette expression a été popularisée par Malek Chebel lorsqu'il a publié en 2004 son Manifeste pour un islam des Lumières, sous-titre 27 propositions pour réformer l'islam. On va l'entendre dans un extrait d'interview tout à l'heure où il va nous donner une définition plus précise de ce terme islam des Lumières. Mais ce que l'on peut dire, c'est que cette expression lumière, elle fait référence pour l'Occident au siècle des Lumières, le 18e siècle, où des intellectuels ont voulu lutter contre l'obscurantisme et l'intolérance, entre autres religions. Ce sont les figures de Voltaire, Diderot, Montesquieu, etc.
Alors Catherine, quel est le diagnostic que posent les tenants d'un islam des Lumières ?
Leur diagnostic, c'est que si l'islam a connu une période faste d'ouverture aux sciences, il s'est par la suite figé, en particulier au Xe siècle. C'est le siècle qui est articulé puisque c'est à ce moment-là que se bloque l'ouverture qui existait pour interpréter les textes en fonction des différents lieux où se vivait l'islam, donc du contexte. Tout ça, c'est bloqué. On parle de fermeture de l'interprétation à ce moment-là. Depuis, il est comme congelé, bloqué, incapable de s'adapter à la modernité, et donc il a besoin d'être repensé, réformé, débarrassé de tout ce qui, au fil des temps, s'est greffé sur ce message originel et qui aujourd'hui est incompatible, par exemple, avec l'égalité des droits entre hommes et femmes, la tolérance envers les autres religions. Bref, pour les tenants d'un islam des Lumières, il faut faire le ménage dans les textes.
Mais est-ce qu'il faut parler d'échec de ce projet ? Parce que quand on regarde les nouvelles, cet islam d'ouverture, comme vous nous le présenter, ne paraît pas franchement dominant.
La question se pose en effet, car on va l'entendre, Malek Chebel en 2004 est très enthousiaste face à ce projet, un projet qui suscite vraiment une vague d'intérêt très important. Alors depuis, on a connu les révolutions du printemps arabe, comme on les a appelées en 2011, on aurait pu s'attendre à ce que ce mouvement prenne davantage d'ampleur encore. Or aujourd'hui, eh bien c'est vrai, il y a Daesh, même si ça concerne une minorité de musulmans, mais il y a aussi sur le plan politique le retour de partis islamistes qui sont très conservateurs sur certains point, que ce soit en Tunisie, au Maroc et puis en Turquie, on voit l'autoritarisme de l'AKP. Donc parler d'échec, c'est peut-être trop fort, mais on a un peu le sentiment qu'il est en panne, ce projet d'un islam d'ouverture, ou du moins qu'il a du mal à sortir des cercles d'intellectuels.
Vous dites qu'on a le sentiment que cet islam des Lumières est en panne. L'expression est forte, hein. Vous avez abordé cette question avec un intellectuel musulman qui s'inscrit dans la ligne de Malek Chebel.
Oui, tout en s'en démarquant sur certains points, mais sur le fond, c'est vrai qu'il est d'accord avec Malek Chebel. Il s'agit de Reda Ben Kiran. Il est sociologue, chercheur associé au Centre des conflits du développement et de la paix de l'IHEID, donc l'Institut des hautes études internationales en développement à Genève. Il a aussi une expérience de terrain puisqu'il a travaillé dans 8 pays du Sahel pour le PNUD sur la question de la radicalisation. Et il co-dirige un atelier de recherche pour une pensée critique et créatrice en islam, un atelier qui s'appelle Iqbal. D'ailleurs, son prochain livre est une critique de la raison théologico-politique en islam.
Alors comment est-ce qu'on va entrer dans la problématique, Catherine ?
Eh bien, avant d'entendre Reda Ben Kiran réagir sur cette expression « islam des Lumières », je vous propose d'écouter un premier extrait d'interview de Malek Chebel, en fait deux extraits. Le premier date de 2004, il était alors au micro de Cyril Desprats, qui l'interviewait suite à la publication de son livre « Manifeste pour un islam des Lumières ». Et puis le deuxième extrait qu'on va entendre tout à l'heure, il date du Journal du Matin de 2015.
Beaucoup de gens m'ont dit, est-ce possible un islam des Lumières ? Moi, je dis dans ce livre, oui, c'est possible à un certain nombre de conditions. Mm-hmm. Et que l'islam a déjà eu sa période des Lumières, longue, très très longue, des siècles, plusieurs siècles. Et que malheureusement, il lui tourne le dos aujourd'hui. Et donc, le but maintenant est de faire prendre conscience aux gens de la nécessité d'aller vers cet islam-là nouveau. Mais je peux vous dire d'ores et déjà qu'une fondation pour un islam des lumières est en train de se créer, sous ma direction d'ailleurs. Et cette proposition, je suis en train de la faire à un tour de table assez riche de sponsors, de personnalités religieuses, de personnalités universitaires, etc., pour réunir le plus grand nombre de gens qui vont défendre l'idée d'un islam différent, un islam nouveau. Donc, c'est assez incroyable la demande qu'il y a de gens qui veulent manifester leur adhésion pour cet islam des lumières, ou leur curiosité, ou leur sympathie. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes au tout début, qu'il n'y a pas de contradiction du tout, puisque, évidemment, il y a un travail de correction qui va se faire au fur et à mesure, on n'est pas figé. Et en plus, en tout état de cause, on ne veut pas imiter l'Occident. Mmh. C'est vrai qu'on utilise l'expression, mais l'expression « lumière » existe également en langue arabe. « Nour ala nour »,« nour », la lumière. Et même, il y a une expression magnifique dans le Coran qui dit « lumière sur lumière ».
Dans le Coran, que signifie la lumière ? À quoi est-ce que ça renvoie ?
Ça renvoie à la lumière de Dieu. Mmh. Dieu est lumière. C'est ça un peu l'idée. Et quand on dit lumière sur lumière, c'est dans le langage mystique le fait que le disciple veuille se comparer à son maître, et où le maître puisse se comparer au prophète, et que le prophète puisse s'approcher du trône de Dieu. Donc lumière signifie Dieu. Et par conséquent, manifeste pour un islam des lumières, c'est manifeste pour un islam de Dieu, pour un islam authentique, mmh. pour un islam tel qu'il est décrété par l'entité invisible qui nous gouverne. Donc quelque part, il y a une cohérence d'ensemble qui vise à tout simplement transposer non pas le système occidental dans le monde arabe ou en islam, mais de prendre ce qu'il y a dans le système occidental et qui peut être opérationnel, opérant aujourd'hui dans l'état de blocage dans lequel se trouve le monde arabe d'aujourd'hui.
...90% des musulmans sont adeptes d'un islam des lumières, c'est-à-dire un islam de progrès, un islam fraternel, un islam qui veut s'intégrer dans le cadre de la République, un islam qui respecte la femme, un islam qui respecte les jeunes et qui respecte les non-musulmans. Donc à partir de là, quand on a partagé ces valeurs-là, qui sont les valeurs essentielles de l'islam traditionnel, l'islam, si vous voulez, de nos parents et de nos grands-parents, on est déjà dans l'islam des lumières. L'islam des lumières est un islam d'aujourd'hui, c'est pas un islam qui remonte au XIIIe siècle, qui remonte au salafisme ou au wahhabisme.
Deux extraits d'interview de Malek Chebel. Dans le premier, il était au micro de Cyril Desprats, qui l'interviewait en 2004 suite à la publication de son livre « Manifeste pour un islam des Lumières ». Et le second extrait date de 2015 dans le journal du matin de la RTS. Reda Benkirane, qu'est-ce que vous pensez de cette définition finalement très large de l'islam des Lumières comme un islam compatible avec les droits de l'homme ?
Ce que dit Malek Chebel est extrêmement intéressant, extrêmement riche. Le problème de ces dénoncés pour un islam, disons, éclairé, c'est que cet islam éclairé a déjà existé et qu'il est derrière nous. Je pense qu'il faut plutôt essayer d'inventer, de produire quelque chose de nouveau.
On entend en effet dans le discours de Malek Chebel que l'islam des Lumières, c'est finalement l'islam fidèle à l'origine, mais vous vous dites ce retour en arrière, il est piégeant.
Oui, c'est très tentant de se ressourcer dans la grande période de la civilisation islamique, donc période éclairée où les arts, la philosophie, les sciences ont fleuri, où la langue arabe était la lingua franca de la science. Et c'est tout l'enjeu de cette notion d'islam des Lumières, c'est que elle nous renvoie aussi également, comme un peu dans l'attitude salafi, à un passé dont on est nostalgique. Alors, les salafistes auraient tendance à mythifier le passé, à ne pas l'historiciser. Évidemment, des esprits éclairés, rationalistes, comme Malek Chebel ou d'autres, voudraient avoir une approche historicisante de la période fastueuse de l'islam. Pour illustrer un peu ce qui se joue, c'est que je prends l'exemple de la mosquée Koutoubia à Marrakech, qui est une mosquée qui a été fondée, qui date au XIIe siècle. Koutoubia, c'était vraiment la mosquée des libraires. En bas de la mosquée, c'était tout un monde qui gravitait autour du livre, des sciences. C'est pour vous dire un peu, à l'époque, ce que le savoir, ce que la pensée pouvait signifier, représenter comme force symbolique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut voir le constat inverse. Où sont les livres, où sont les auteurs, où sont les nouvelles œuvres? Et je pense que ce que, de manière plus pertinente, nous pourrions mettre en avant pour un islam, disons, pour une reconstruction de la pensée en islam, qui soit en même temps adaptée aux défis de ce siècle, c'est de penser la nouveauté. Et je pense que, quelque part, l'image que je pourrais donner, c'est celle de Tariq ibn Ziyad, qui est un berbère qui est converti à l'islam et qui est le premier franchi le détroit de Gibraltar, Gibraltar pour son nom, et qui, en arrivant en Andalousie, détruit les embarcations pour ne plus revenir en arrière. Donc, cette démarche, évidemment, peut paraître guerrière, mais on sait que l'Andalousie a été un lieu de grande civilisation, de grande hybridation. Et donc, c'est un peu cette image que j'aimerais... il faut, quelque part, opérer une rupture un peu même violente avec le passé, même les grandeurs. Parce que si on réfère aux lumières de l'islam, ça nous renvoie automatiquement à un âge d'or et nous sommes dans une attitude tournée vers le passé. Or, l'enjeu pour l'islam, qui représente le quart de l'humanité aujourd'hui, c'est de penser des questions de ce siècle et du siècle à venir, d'imaginer une raison religieuse ouverte à la pluralité, participer à la résolution des problèmes de l'humanité, produire de la science, produire de la connaissance. Nous sommes à un âge d'explosion de la connaissance et l'islam est très très pauvre aujourd'hui en termes de production de connaissances. Et c'est peut-être ça à quoi fait référence Malek Chebel, très certainement. C'est une quête de science, c'est un concept islamique, Talab al-Ilm, qu'était la science jusqu'en Chine. C'est un dit prophétique. Il y a aussi un autre dit prophétique qui met en avant la science, qui dit « l'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs ». Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec la violence, le sang des martyrs tend à devenir l'encre des savants. Voilà.
Et se référer à l'âge d'or de l'islam, à cet âge d'ouverture, pour peut-être se dire, à cette époque-là, on a été capable de cette ouverture, aujourd'hui, on peut aussi en être capable. Mais pas pour reproduire, si je vous comprends bien.
Voilà, tout à fait. Ce que je trouve très intéressant, c'est cette ouverture qui a marqué ce début entre le 8e, 11e, 12e siècle, où il y a eu vraiment une grande curiosité et une ouverture à toutes sortes de savoirs, sacrés et profanes. Ce n'est pas assez... connu en Europe, que l'islam a transmis l'héritage grec à l'Occident. Elle a traduit des œuvres, elle les a commentées, elle les a augmentées. Averroès représente le philosophe qui a été à la fois ce commentateur, ce transmetteur, et aussi qui a montré une spécificité proprement arabo-musulmane de la pensée philosophique.
Reda Ben Kiran, dans l'extrait qu'on a entendu, qui date, le premier extrait, de plus de 10 ans, on voit un Malek Chebel qui est très enthousiaste par rapport à sa fondation, en disant, voilà, ça y est, on va s'y mettre, on va faire rayonner ce qu'il appelle l'islam des Lumières, un islam de progrès. On a l'impression aujourd'hui que c'est presque l'inverse, enfin, que cet islam des Lumières est encore plus en sourdine qu'avant.
Oui, probablement parce que, bon, depuis la fin de l'effondrement du communisme, le système mondial, qui a toujours besoin d'agonisme structurant, a trouvé en l'islam, alors mettez derrière ce mot tout ce que vous voulez, hein, en termes géopolitiques, une sorte d'ennemi métaphysique assez commode. Et malheureusement, l'islam est l'objet de lectures politistes, sécuritaires, d'approches militaires, policières. Donc, je veux dire, les services de renseignement sont des spécialistes de l'islam. Je veux dire, autant on peut être critique vis-à-vis des dérives conservatrices, extrémistes, que j'appellerais l'islamopholie d'une minorité agissante et spectaculaire, autant il faut aussi être conscient de l'autre dérive, de l'instrumentalisation et aussi de la détestation, cette islamophobie.
Par l'extrême droite.
L'extrême droite, entre autres, mais l'islamophobie, cette détestation aussi, est quelque chose qui s'affirme parmi l'intelligentsia, y compris de gauche. Donc, il y a des choses immondes qui se disent dans les médias, particulièrement en France, sur l'islam et les musulmans, et il y a aussi des choses immondes qui se commettent au nom de l'islam par une minorité, et je pense que toute la difficulté, et ce n'est pas une voie facile, c'est de penser entre ces deux extrêmes et d'être vigilant sur ces deux dérives que j'appelle islamophobie et islamopholie.
Je vous propose, Reda Ben Kiran, d'écouter un autre extrait de Malek Chebel où il appelait à une laïcisation de l'islam, où il disait aussi que le problème pour lui est avant tout un problème politique. Écoutez-le.
J'arrive à une laïcité, en fait. J'arrive à une séparation de la mosquée
l'État
et de l'État. Exactement.
De la religion.
J'en arrive à cette laïcité-là, en disant que le Coran, ça concerne l'individu, pas la communauté. Et je dis que tant que le politique, évidemment, ne joue pas le rôle qui est le sien, le politique, c'est-à-dire la religion des hommes d'abord. Hein? Tant que la religion de Dieu s'occupe une telle place dans la religion des hommes, si vous voulez, le problème sera toujours posé, parce que Dieu sera trop puissant par rapport à l'homme. Et l'homme n'aura de cesse que de l'adorer jusqu'à la mort. Donc moi je dis non, l'homme doit se donner les lois pour vivre en société, en harmonie avec les autres, en intelligence avec les autres, sans les agresser, sans être agressé par eux. À mon avis, le problème qui bloque le plus les pays arabes, c'est la politique. C'est le fait que des minorités illégitimes se sont accaparées le pouvoir. S'il y avait plus de tolérance, plus de démocratie, plus de liberté d'expression et plus de liberté de conscience, a fortiori, si vous voulez, dans les pays arabes, il n'y aurait même pas eu ces problèmes-là. Il n'y aurait pas eu une jeunesse désabusée et frustrée. Il n'y aurait pas eu des kamikazes. Il n'y aurait pas eu un certain nombre de dévoiements, finalement, de la religion.
Un autre extrait d'interview datant de 2001, c'était Malek Chebel au micro de Serge Carrel dans l'émission À vue d'esprit. Reda Benkirane, le fondamentalisme islamique, un problème d'abord politique, il faudrait une séparation claire des pouvoirs entre religieux et politiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ?
L'analyse de Malek Chebel, dans l'extrait que j'ai écouté, est extrêmement dense. La question de la sécularisation est une question, à mon avis, de première importance. Moi-même, je défends, et je ne le défends pas simplement en Europe, mais aussi dans les pays, un projet de sécularisation en islam. J'ai organisé un colloque où j'ai parlé, pas de sécularisation et d'islam, mais de sécularisation de l'islam. Donc je m'inscris dans ce courant, mais encore faut-il comprendre ce qu'est la sécularisation. Et je ne suis pas sûr qu'en Europe on comprenne totalement ce que ça veut dire, parce que c'est un processus universel qui a touché différentes sociétés, mais qui s'exprime différemment d'une société à l'autre. Si vous prenez par exemple la France, la laïcité française représente en fait la domination d'une certaine tradition religieuse, le catholicisme. D'ailleurs, ça se voit tout simplement dans les jours fériés de la République française. Si vous prenez l'exemple, par exemple, de la Turquie, ça a été une sécularisation contre la religion majoritaire. C'est un processus qui a touché différentes cultures. Simplement, il faut admettre que dans les pays de l'islam, ça peut prendre d'autres formes que celles empruntées dans les pays d'Europe, ou disons selon la tradition occidentale. Et de ce fait, vous avez cette ouverture et cette vision perspectiviste, vous pouvez voir aussi que ce qu'on appelle fondamentalisme, ou ce qu'on a appelé retour de l'islam ou de l'islamisme, appelez-le comme vous voulez, est un recours de l'islam. Et moi, j'appelle ça, ce phénomène, une sortie de l'islam.
Comment vous comprenez ça ? Parce que c'est compliqué, ce que vous nous dites là.
C'est-à-dire que dans des sociétés où, justement, ce qu'a évoqué Malek Chebel, où il n'y a que de la dictature, où il n'y a pas de liberté d'expression, le religieux devient un asile politique. Ça devient un refuge. Je vous donne un exemple très simple. Au sortir des indépendances, la plupart des pays, par exemple, de la rive sud de la Méditerranée, le monde arabe, étaient dominés par des gouvernements laïcs. Mais la question de la liberté, de la tyrannie, était là. Donc, si vous voulez, ce retour du religieux, en fait, c'est un recours, et je pense que c'est une forme paradoxale de sécularisation, et tout l'enjeu est qu'elle est subie, c'est sur un mode d'effraction, elle n'est pas pensée. Et tout l'enjeu, je pense, c'est de, plutôt qu'une désacralisation sauvage, comme on voit par exemple à travers le wahhabisme, c'est la doctrine officielle de l'Arabie Saoudite, mais c'est aussi une doctrine qui a été mondialisée et qui est liée aussi à la fortune géologique de l'Arabie. Donc c'est lié
au pétrole.
Dollar. Donc il y a un lien entre l'éthique islamique et l'esprit du capitalisme. Donc il y a des dynamiques qui relèvent d'OPA, au sens financier du terme. Et quand vous voyez ces aspects, on voit des aspects de désacralisation. Regardez la Mecque. Aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue sur le plan du patrimoine architectural. On sait, par exemple, que l'islam, jusqu'à présent, une des permanences de sa grandeur, c'est une conception de la ville, un sens architectural. Aujourd'hui, à la Mecque, à Médine, il y a une destruction presque jubilatoire du patrimoine historique, la demeure de la femme du prophète, des compagnons, des œuvres architecturales édifiées par les Ottomans, pour construire à la place des temples commerciaux, une architecture factice sur le mode de Las Vegas, la cité du vice et du jeu. Et quand vous êtes face à la Kaaba aujourd'hui, vous n'avez pas au sein de la mosquée sacrée, face au cube sacré, vous avez au-dessus de vous un énorme môle et une tour qui prédomine. Donc, dans le lieu le plus saint de l'islam, vous avez cette profanation qui se commet au nom d'un capitalisme transcendantal. Donc, Pour moi, il y a des formes sauvages de désacralisation, il y a des formes paradoxales de sécularisation, et tout l'enjeu est de produire une pensée pour pouvoir maîtriser ces processus.
Reda Benkirane, vous nous dites, en Occident, on regarde les gouvernements qui ont suivi la colonisation, qui étaient des gouvernements laïcs, on rappelle que les femmes ne portaient pas le voile, qu'elles avaient la mini-jupe, mais c'était des gouvernements autoritaires. Aujourd'hui, on voit arriver au pouvoir, par exemple en Tunisie, Ennahda, au Maroc, on a vu le PJD qui arrive, on voit aussi en Turquie le succès du parti d'Erdogan avec toutes les questions que ça pose. Comment est-ce que vous regardez justement ces partis qui revendiquent leur identité musulmane, qui arrivent au pouvoir? Pour vous, vous l'analysez comme aussi une forme de sécularisation?
Oui. Tout simplement. Vous me posez une question très importante. Je dis que moi, je défends, disons, un projet de sécularisation, mais je fais partie de ceux qui reconnaissent le droit démocratique à l'expression de partis d'inspiration religieuse, pourvu qu'ils respectent un certain nombre de règles de la vie sociale, politique, reconnaissance de la diversité culturelle, religieuse, le droit des minorités, le droit à l'alternance du pouvoir, etc. Or, certains partis d'inspiration religieuse en islam sont inscrits dans un processus de démocratisation. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut laisser jouer ces expériences et ne pas interrompre des processus. On a vu ce qui s'est passé en Algérie au début des années 90 avec l'annulation des élections, des premières élections libres dans le monde arabe et qui avait vu la consécration du Front islamique du salut, une guerre civile qui s'est traduite par 200 à 300 000 morts. On a vu ce qui s'est passé aussi en Égypte dernièrement. Donc je pense que les expériences qui mettent en avant des processus, disons, de politique où les islamistes sont des partis comme les autres, je pense que c'est des expériences qui méritent d'être suivies. Je pense qu'il pourrait y avoir une notion comme la démocratie islamique, voilà, sur la rive sud de la Méditerranée, de la même manière que la démocratie chrétienne a joué un rôle très important dans la vie politique européenne. Simplement, je reviens à la question de la pensée et de la production d'un savoir. Je note que, par exemple, dans le cas turc, qui a été présenté pendant des années et des années comme le modèle à suivre, tous ces partis d'inspiration religieuse disaient « en fait, nous sommes démocrates et nous voulons suivre le modèle turc ». Je suis très inquiet de voir la dérive autoritaire, encore une fois, de ces derniers événements. L'AKP qui maintenant a opéré finalement, à la suite d'une tentative avortée de Koutra, un véritable coup d'État politique sans précédent, en opérant des purges par milliers de personnes, en expulsant des milliers de personnes de l'enseignement, de la justice, etc., pose encore la question de... Il nous manque une théorie aboutie à la fois du pouvoir et de la sécularisation en islam. Et c'est pour ça que je réfère à quelque chose de nouveau. Il nous faut vraiment analyser la nouveauté de ces situations et produire quelque chose que l'on ne peut pas trouver dans les textes et dans les références théologiques qui remontent à plusieurs siècles.
Et qu'on ne peut pas non plus trouver complètement en Occident parce qu'on ferait du copier-coller qui ne marcherait pas.
Tout à fait. Nous sommes dans un processus de globalisation, bien entendu. Nous sommes dans le mélange. Mais il faut que les solutions ne soient pas des solutions importées et qu'elles soient adaptées. Et c'est pour ça que je pense que la question de l'islam politique, avec des garde-fous, la meilleure manière de la contrôler, c'est qu'elle soit intégrée dans un jeu légaliste, politique, dans un processus de transition vers la démocratie. Ce que nous promettaient finalement les révolutions arabes. Et je vous rappelle que ces révolutions arabes ont mis en avant un événement sociétal considérable que je considère comme le plus important depuis 14 siècles, depuis les débuts de l'islam. Des millions de gens sont sortis sans autre motif ou leader ou idéologie que quelques mots d'ordre, liberté, dignité, justice. Donc il n'y avait rien de spécifiquement religieux derrière cette mobilisation sans précédent.
Quand on interrogeait à l'époque et puis quelques mois après ceux qui ont participé à ce printemps arabe, comme on l'a appelé, beaucoup disaient ce qui est tombé c'est la peur. Est-ce que cette révolution-là, silencieuse d'une certaine manière, est-ce que vous la voyez toujours active aujourd'hui?
Je pense que c'est l'acquis fondamental de ce qu'on a appelé le printemps arabe. J'utilise ce vocable par commodité, mais cette expression, même si elle est critiquée, mais je pense que fondamentalement, c'est le mur de la peur qui s'est écroulé. Dans cet écroulement d'une peur multiséculaire, je pense que nous avons une chance historique de toucher à des questions qui, avant la révolution arabe, relevaient simplement de tabous. Moi, je vous donne un exemple. Je travaille sur la critique du théologico-politique en islam. Et je pensais travailler dans le cadre du laboratoire européen en me disant « l'Europe m'offre les conditions de liberté de penser et ce que je fais là n'est pas audible, tellement le religieux est présent hein. ». Et depuis les révolutions arabes, j'ai présenté mes travaux au Maroc. Pendant que je faisais l'exposé de mon travail, il y avait des manifestations constantes dans les rues. J'ai fait ce travail aussi, j'ai présenté ce travail dans le cadre d'un colloque sur l'émir Abdelkader en Algérie face à des dignités religieuses au Qatar, au Liban, au Sahel. Et je vous assure que malgré tout, aujourd'hui, la peur est tombée. Évidemment, il y a énormément d'abus sur les libertés, des gens sont emprisonnés, c'est une lutte permanente. Mais poser une œuvre à la manière d'un Spinoza arabe, je pense à Mohamed Chahrour, que j'ai fait venir en Suisse et qui commence à être écouté en Suisse, ou d'autres penseurs de ce calibre, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est possible. Si vous mobilisez ces gens, si vous faites venir par exemple Mohamed Chahrour, vous organisez une conférence, c'est difficile de l'organiser dans une université arabe, mais si vous l'organisez, vous aurez des milliers de personnes qui viendront écouter cette personne qui a produit une lecture du Coran, mais vraiment du XXe siècle. Ce n'est pas un clerc, ce n'est pas un théologien, je pense.
Il y a une attente, il y a une ouverture aujourd'hui.
Il y a des interrogations. Tout l'enjeu est de mettre en avant tous ces penseurs qui sont pour le moment à la marge, qui ne sont pas très connus, de repenser le religieux, comme le font un certain nombre de penseurs du monde musulman, à la fois dans le sud et au nord de la Méditerranée. C'est peut-être opérer voilà, cette migration de la marge vers le centre. Hein. Et je pense que c'est ce à quoi on va assister dans la prochaine décennie, je pense.
Reda Benkirane, vous êtes un intellectuel musulman. Vous avez fondé un atelier de recherche qui s'appelle Iqbal, pour une pensée critique et créatrice en islam.
Oui, j'ai créé cet atelier de recherche avec mon ami le professeur Hassan Aziri. Et nous travaillons sur l'idée justement de penser de l'intérieur ces questions de réforme ou de rénovation, voire de révolution intellectuelle en islam. Donc on met l'accent vraiment sur la dimension cognitive. Alors dans le cadre de cet atelier, nous avons organisé un premier colloque à l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement sur religion et État, logique de la sécularisation et de la citoyenneté en islam. Nous en avons fait un sur le vivre ensemble au Liban et nous projetons d'organiser un entièrement consacré à la question de femmes, religion et liberté en islam à Marrakech. Nous avons aussi le projet d'organiser ce qui ne s'est jamais fait, une conférence scientifique universitaire sur le Coran dans laquelle figureraient les plus grands spécialistes du Coran du monde européen et nord-américain et du monde musulman et de les réunir, ce qui serait une première, pour comprendre ce que l'on peut être en mesure de dire du Coran à la lumière des sciences humaines aujourd'hui.
Et dans cet atelier Iqbal se côtoient des chercheurs, des professeurs, des penseurs issus du monde oriental, du monde occidental, du monde arabe.
Tout à fait. Donc nous avons énormément d'entretiens en anglais, en français et en arabe de chercheurs qui travaillent de manière critique et ouverte sur la question de l'islamité au XXIe siècle.
Reda Benkirane, quand on évoque une pensée d'ouverture dans l'islam telle qu'on la développe, l'ennemi de cette pensée, c'est le wahhabisme, donc cette pensée très rétrograde issue d'Arabie Saoudite. Vous-même, vous avez travaillé sur le terrain pour le PNUD dans 8 pays du Sahel. Est-ce que vous avez l'impression que cette idéologie wahhabite continue de progresser dans le monde musulman ?
Je suis un peu prudent avec ce terme de ennemi. Bon, je parle en mon nom propre. Il y a deux pays où je ne me rendrai pas pour des questions politiques. C'est Israël et l'Arabie Saoudite. Je pense qu'on a toujours dit qu'on fête les 100 ans des accords de Sykes-Picot et on a défendu les projets.
Donc cette répartition du territoire après la Première Guerre mondiale, des territoires qui recoupent aujourd'hui la Syrie, l'Irak, le Liban, etc.
Tout à fait. Et donc l'Europe défend, disons, la sécularisation, mais vous remarquerez qu'elle a construit, elle a taillé cette région autour de deux États, deux projets nationaux, qui se sont fixés sur deux capitales spirituelles, Jérusalem et la Mecque. On tend à montrer que Israël, par rapport aux exactions qu'elle commet à l'occupation de la Palestine, aux exactions commises des Palestiniens, que Israël est le protégé, l'allié inconditionnel de l'Occident. C'est vrai. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. C'est que nous avons de l'autre côté l'Arabie Saoudite, qui est aussi l'allié inconditionnel de l'Occident pour des raisons liées à l'économie mondiale. Le pétrole, c'est le sang vital de l'économie. Et vous remarquerez que le terrorisme d'Al-Qaïda vient de cette matrice. Hein, de, sur 19, les 19 membres du commando de, du 11 septembre, 14 étaient saoudiens. Ben Laden est apparenté à la famille qui a une immense fortune et qui est une entreprise de construction très importante en Arabie Saoudite. Donc, ce wahhabisme qui s'est répandu à coup de pétrodollars. Donc,
L'Occident a une part de responsabilité, c'est ce que vous nous dites clairement.
Une part d'hypocrisie dans cette dénonciation de l'extrémisme et dans ce soutien. En fait, les pays, les principautés du Golfe ont une puissance financière considérable et ils achètent pratiquement tout ce qu'ils peuvent, des institutions, des usines, des personnalités, etc.
Donc, et ça, ça continue ce mouvement.
Alors ce mouvement continue, mais il n'est pas que négatif. C'est pour ça que je veux bien affirmer que le wahhabisme, personnellement, je ne me reconnais pas dans cette idéologie, mais force est de constater qu'il y a une aide arabe qui se fait, qu'en Afrique, il y a l'aide occidentale avec ses torts et travers, mais il y a aussi l'aide arabe et les pays du Golfe ont construit tout un réseau d'écoles, de centres culturels, et donc c'est perçu aussi comme une sorte de modernité à l'orientale. C'est une manière aussi de zapper l'Occident. Donc l'Arabie fonctionne comme une sorte d'Amérique arabe qui fascine par la vision d'une religion austère, mais en même temps qui s'accommode très bien du matérialisme. Donc c'est ça qui attire aussi beaucoup. C'est que c'est une manière aussi de faire aussi du développement, d'accéder à une forme d'éducation, l'éducation qui met en avant la langue arabe, parce que la langue arabe est une langue qui est une langue africaine aussi. Force est de constater aussi que les nouvelles formes de religiosité en Afrique interviennent dans des sociétés qui sont castées, où il y a une hiérarchisation, les gens sont rivés à leurs conditions d'origine. Et aussi étrangement que ça puisse paraître, ces mouvements salafistes, ces mouvements même wahhabites, ces mouvements jihadistes, pour les plus violents parmi eux, apparaissent dans des sociétés où la servilité, l'esclavage sont des choses qui sont encore prégnantes sur le plan des mentalités, non pas comme des destructeurs de citoyenneté, comme on pourrait être enclin à le penser depuis ici, mais comme des accélérateurs de citoyenneté, parce que ce sont des régions où l'État est encore pas toujours, je pense à certains pays, comme la Mauritanie, où l'État est très faible, et donc où ce système de caste est prégnant, et il propose aussi une vision égalitaire. Il n'y a pas le descendant d'esclaves, ou le servile, ou le chaudronnier, ou...
Tous se retrouvent égaux dans cet islam.
Voilà. Si quelqu'un est détenteur d'un savoir religieux et qu'il est d'ascendance servile, il ne sera pas du tout marginalisé ou discriminalisé. Donc il y a une forme d'égalité, de fraternité, et force est de reconnaître que c'est la force aussi de ces mouvements que de capitaliser sur ces aspects sociologiques. Donc il y a des aspects qui ne sont pas si négatifs, mais simplement il y a aussi l'orientation de l'expression religieuse. Certains pensent que le wahhabisme se confond avec le salafisme et que, à terme, le wahhabisme a commencé comme une forme d'hérésie. Il a été rejeté à la fin du XVIIIe, au moment de son apparition, au sein du monde sunnite. Il y a plus d'une centaine de réfutations qui ont été écrites, principalement parce qu'il référait à la volonté de lutter contre les innovations blâmables, donc le culte des saints, la visite des tombeaux, enfin toutes sortes d'activités, par le jihad armé et combatif, offensif, et par le takfir, l'excommunication. Et ces deux aspects qui ont fait l'objet d'opposition parce que c'était l'introduction d'un fait de violence dans la théologie. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, dans le cadre de la géopolitique des religions, le wahhabisme tend à devenir central au sein du monde sunnite. C'est une réalité qu'il faut reconnaître. Alors je pense qu'il ne s'agit pas de le combattre simplement militairement, ou même pas, mais par des contre-projets. Je veux dire, la messe n'est pas dite. Les uns vont parler d'islam éclairé, les autres vont parler de sécularisation de l'islam, les autres vont parler de certains aggiornamento, mais je pense que il y a un travail qui peut être entrepris, je pense, et qui prendra du temps aussi. Parce qu'une réalité aussi, c'est que nos sociétés sont sécularisées, mélangées, brassées, et donc il est très très difficile de revenir au programme de pureté. Je crois avoir montré le décalage entre le discours et les effectuations à travers l'exemple de la Mecque. Donc je pense que les gens pourraient être réceptifs à d'autres expressions plus adaptées, parce qu'il y a quand même des questions qui font problème. Voilà.
La messe n'est pas dite.
L'aggiornamento dell'Islam prendra du temps. C'était les propos de Reda Benkiran, sociologue et co-directeur d'Iqbal, un atelier de recherche pour une pensée critique et créatrice en islam. Catherine Erard, il est plutôt confiant sur cette réforme de l'islam qui est déjà en cours.
Oui, en tout cas, il œuvre pour cela. Il est de loin pas le seul. Et ce discours trouve de l'écho. Ça progresse, mais évidemment, une conférence pour un islam d'ouverture qui fait le plein d'auditeurs, ça fera jamais les grands titres, contrairement à un attentat islamiste.
Catherine Erard, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à l'avancée de l'islam des Lumières ?
C'est d'abord peut-être l'importance du temps. C'est un mouvement de pensée qui est long. On évoquait au début de l'émission les lumières du XVIIIe siècle, mais jusqu'à ce que les idéaux sociaux qui étaient portés par ces philosophes à l'époque, ces idéaux de justice, d'égalité, de lutte contre l'obscurantisme s'imposent, il a vraiment fallu du temps et c'est pas encore fini. Et donc là, on est vraiment sur un mouvement long. Ensuite, ce qui m'a marqué dans l'intervention de Reda Benkiran, c'est le fait qu'il serait contre-productif de faire du copier-coller avec ce qu'a connu l'Europe, les évolutions du christianisme. L'islam doit trouver son propre mode de modernisation. Et puis, c'est aussi une question politique. Si les partis politiques laïques des pays musulmans sont corrompus, autoritaires, on comprend que la population choisisse des mouvements islamiques, mais qui sont davantage proches de la population, qui aident au plan caritatif. Et c'est vrai qu'il faut se méfier de notre regard d'occidental qui associe peut-être trop facilement la laïcité au progrès et l'islam à une société rétrograde. C'est en fait beaucoup plus complexe que cela, mais une chose en tout cas est certaine, c'est que l'islam aujourd'hui bouge.
On en restera à ce terme-là, hein, l'islam bouge. Catherine Erard, merci beaucoup pour cette thématique. Et merci aussi à Gérald Yestan qui en a signé la réalisation. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez nous joindre sur notre répondeur 058 236 60 70 058 236 60 70. Et pour réécouter ce sujet, n'hésitez pas à visiter le portail rtsreligion.ch.